إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من نعم الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم يزداد فيها الأجر ويكثر فيها الخير فمن استغلها فيما شرعه الله فهو من الموفقين ومن فرط فيها فقد فاته ما قد لا يدركه مرة أخرى وها نحن عباد الله مقبلون على أيام مباركات اختارها الله تعالى واصطفاها وجعلها أفضل أيام السنة على الإطلاق وهي أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة ولمكانتها فقد أقسم بها المولى في كتابه فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال ابن عباس وغيره من المفسرين رضي الله عنهم المراد بالعشر في الآية العشر الأول من شهر ذي الحجة فإذا علم العبد أن العمل الصالح يحبه الله في هذه الأيام أكثر من غيرها من غير استثناء شيء منها فإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل عنده اجتهد العبد فيها في الطاعات وازداد في القربات فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رواه البخاري وكان سعيد بن جبير رحمه الله هو الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه ومن تأمل هذه الأيام وجد أنها تجمع فيها أنواع العبادات ويجتهد المسلمون فيها بالطاعات ففيها الصلاة والصيام والحج والذبح وغيرها من الطاعات الجليلة والعبادات العظيمة بل جعلها الله تبارك وتعالى موسما لحج بيته الحرام وجعل فيها أيامه العظام ففي هذه العشر يوم التروية وفيها يوم عرفة وهو ركن الحج الأكبر وفيها يوم النحر وهو أعظم الأيام عنده عباد الله ومن العبادات المشروعة في أيام عشر ذي الحجة التكبير وهو في جميع الأوقات من أول دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق لقول الله سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وهي أيام العشر وقوله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات وهي أيام التشريق ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، رواه مسلم. وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وأما التكبير المقيد فيكون في أدبار الصلوات المفروضة من صلاة الصبح يوم عرفة لغير الحاج إلى صباح العصر من آخر أيام التشريق، وقد دل على مشروعية ذلك الإجماع كما قاله الإمام أحمد وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم. عباد الله، مما يشرع للمسلم في هذه الأيام العشر المباركات الصدقات بأنواعها وبذل الإحسان وصلة الأرحام والبر بأبوابها الفسيحة ومجالاته الواسعة. ومن الأعمال الصالحة التي يشرع للمسلم العناية بها في هذه العشر المباركة أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالصيام، خصوصا صيام يوم عرفة لغير الحاج، فقد ورد في فضله ثواب عظيم لا يتركه إلا محروم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. عباد الله، البدار إلى الخيرات قبل فوات الأوقات. يقول العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: يا من طلع فجر شيبه بعد بلوغ الأربعين، يا من مضى عليه بعد ذلك ليالي عشر سنين حتى بلغ الخمسين، يا من هو في معترك المنايا ما بين الستين والسبعين، ما تنتظر بعد هذا الخبر إلا أن يأتيك اليقين، يا من ذنوبه بعدد الشفع والوتر، أما تستحي من الكرام الكاتبين، أم أنت ممن يكذب بيوم الدين، يا من ظلمة قلبه كالليل إذا يسري، أما آن لقلبك أن يستنير أو يلين، تعرض لنفحات مولاك في هذا العشر، فإن فيه لله نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد بعدها آخر الدهر. ليالي العشر أوقات الإجابة، فبادر رغبة تلحق ثوابه، ألا لا وقت للعمل فيه، ثواب الخير أقرب للإصابة. ومن أوقات الليالي العشر حقا فشمر واطلبن فيها الإنابة. عباد الله، لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته في كل عام، جعل الله موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. عباد الله، ومن الأحكام الشرعية التي تتأكد معرفتها في مستهل هذه الأيام ما روته أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره، رواه مسلم. فمن أراد أن يضحي يتأكد في حقه إذا دخلت العشر أن لا يأخذ من شعره ولا من أظافره ولا من جلده شيئا حتى يضحي. وهذا حكم خاص بمن أراد أن يضحي، ويخطئ من يظن أن إمساك المضحي إحرام، بل يجوز له الطيب والجماع وغير ذلك مما يمتنع على المحرم. ومن ذلك أخذ من المضحين من شعره وأظافره فليس عليه كفارة، فإن أضحيته مجزئة، ولكن عليه التوبة والاستغفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سيرفيتور الله، préservez-vous d'Allah، préservez-vous de son châtiment au jour de la résurrection. Préparez-vous en faisant des bonnes œuvres et en vous écartant des péchés que Allah Azza wa Jal vous a interdit de faire. Serviteur d'Allah, sachez que Allah Azza wa Jal, il a fait qu'il y ait dans l'année des périodes de bénédiction, des périodes dans lesquelles les actions qu'on fait sont récompensées, mais de façon multipliée. Et parmi ces périodes, il y a la période des 10 jours de Dhul-Hijjah, les 10 premiers jours du mois, du dernier jour, du dernier mois du calendrier musulman, le mois de Dhul-Hijjah. Les 10 premiers jours, parmi les 10 premiers jours de ce mois, sont bénis. C'est-à-dire que les actions que le musulman fait pendant ces 10 jours-là sont multipliées dans la récompense. Et Allah Azza wa Jal offre à ses serviteurs pendant ces jours-là de grandes récompenses pour les actions qu'il fait, sans exception par rapport à quelle parmi les actions de bien tu fais. C'est-à-dire que, yani, tu peux faire des bonnes actions de toutes les catégories, que ce soit des prières, que ce soit des jeûnes, que ce soit le fait de faire des sadaqat, que ce soit le fait, par exemple, de réciter le Coran, d'aider les gens, tout ce que tu fais de bien. Eh bien, ces actions-là que tu fais pendant ces 10 jours-là sont encore plus multipliées que d'habitude. Parce qu'on sait qu'on est toujours encouragé de faire le bien en tout temps, sans exception. Mais il y a des périodes dans lesquelles les actions sont meilleures que dans les autres, hein, dans les autres moments de l'année. Allah Azza wa Jal a même juré par ces 10 jours, hein, dans le Coran. Il dit « وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ » Et il jure donc par ces 10 nuits et par ces 10 jours. Les ulama de tafsir comme Abdullah ibn Abbas ont expliqué ce verset-là en disant que ce sont les meilleures nuits de l'année, sont les nuits du Ramadan, les 10 dernières nuits. Et les meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Donc si on parle de préférence ou d'excellence par rapport aux œuvres, eh bien, il n'y a pas meilleur durant l'année que les 10 nuits de la fin du Ramadan et les 10 jours du début de Dhul-Hijjah. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a encouragé les musulmans à faire des efforts pendant ces jours-là. Et pour nous faire comprendre à quel point les récompenses de ces jours-là sont grandes, il a mentionné que, yani, Allah Azza wa Jal, pendant ces 10 jours-là, eh bien, il n'y a pas de jours dans lesquels il aime plus nos actions que pendant ces jours-là. Et les sahabas ont posé la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Oh, messager d'Allah, même pas le djihad, fi sabilillah ?» Et on sait à quel point le djihad, fi sabilillah, c'est une parmi les plus grandes formes d'adoration qu'un musulman peut faire. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il fait le djihad, fi sabilillah, il fait le sacrifice de sa vie pour Allah Azza wa Jal. Il fait le sacrifice de son argent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sacrifice ultime qu'une personne peut accomplir. Parce que dans ce sacrifice-là, quand il fait le djihad dans le sentier d'Allah, il défend la religion d'Allah Azza wa Jal. Il défend la charia d'Allah. Il élève la parole d'Allah. Et à notre époque, les gens, par exemple, quand tu parles de djihad, ils ont même parfois peur lorsqu'ils entendent ce mot-là. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'entre eux, ils ne comprennent même pas ce que ça signifie. Et il y a tellement de mensonges et de faussetés qui ont été propagées à propos du djihad que les gens, là, ils en parlent, ils ont peur. Ils ne comprennent pas la réalité de ce que ça signifie. Sauf que le djihad dans l'islam, c'est une parmi les plus grandes formes d'adoration pour Allah, Azza wa Jal. Et Allah l'a légiféré à de nombreux prophètes. Pas seulement au prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, mais à bien d'autres prophètes qui sont venus avant lui.
Et parmi les prophètes qui ont fait le djihad, Moussa alayhi salam, qui a combattu lorsqu'il a quitté l'Égypte, hein? Allah azzawajal lui a donné la terre de Canaan, et quand il est rentré, Allah lui a ordonné de les combattre, ces gens-là. Et son peuple a refusé de combattre. Ils ont dit, non, nous on a peur. Ces gens-là, c'est des géants, nous on a peur de les combattre. Vas-y toi avec ton Dieu, nous on reste assis. Et Allah les a punis à cause de ça. En tout cas, ils sont restés longtemps sans rien. Ils ont erré sur la terre jusqu'à ce qu'une nouvelle génération vienne. Et eux ont été là, en capacité de combattre ces gens-là. Et ils avaient la foi et donc ils ont combattu. Parmi les prophètes qui ont fait le djihad aussi, Daoud alayhi salam. Hein? Et vous savez l'histoire qu'il y a eu entre Goliath, hein? David et Goliath, puis comment ils ont combattu et par la suite il est devenu roi. Et son fils, après lui, Suleyman, lui aussi qui a fait de grandes guerres, qui ont fait des combats aussi. Tout ça c'est dans le djihad, dans le sentier d'Allah. Et donc tout ça, pourquoi je vous dis ça, c'est pour vous faire comprendre que ces choses-là sont mentionnées même dans le livre des juifs et des chrétiens. Qui sont les premiers à nous pointer du doigt lorsqu'on parle hein, d'islam. Nous disons, ah, votre prophète, il a fait la guerre, il a fait le djihad. Yani Moussa, il a fait la guerre aussi, il a fait le djihad. Et Daoud et Suleyman et beaucoup d'autres prophètes. Et quand ils ont fait ça, c'est pour élever la parole d'Allah et pour défendre la justice, pour éliminer l'injustice qui existait sur la terre. Et ça, c'est une obligation pour les croyants. Hein? Mais il y a des règles, et ce n'est pas n'importe comment. Et ce n'est pas comme certains groupes actuellement, parmi les groupes des Khawarij, des Takfiriyin, qui font des actes de terrorisme, puis après ça, ils disent, ça c'est le djihad. Ils tuent des innocents, ils tuent des femmes, ils tuent des enfants. Ils tuent des gens qui sont des non-combattants, c'est-à-dire des civils, et puis ils les tuent comme ça, au hasard. Ça, c'est interdit par l'islam, c'est interdit par la charia, et ça n'a rien à voir avec le djihad. Dans le djihad, on a seulement le droit de tuer les combattants qui nous combattent. Hein? Et non pas les civils. Et on n'a pas le droit non plus de tuer des femmes et des enfants et des vieillards. Ça fait partie des règles de la miséricorde de l'islam. Donc, hein, faut pas confondre entre djihad et terrorisme, contrairement à ce que les médias occidentaux essaient de raconter à propos de nous, les musulmans. Ils pensent que tout ce qu'un musulman fait, c'est l'islam. Or, c'est pas vrai. Il y a des musulmans qui font des choses qui sont contraires à l'islam. Et quand des musulmans font quelque chose qui est contraire à l'islam, on dit ça c'est son erreur à lui, c'est pas l'erreur de l'islam. Tu peux pas blâmer l'islam pour l'erreur des musulmans. L'islam est innocent de ce que font certains musulmans. D'accord? Il faut pas faire d'amalgame. Et donc le prophète, alayhissalatu wassalam, il encourageait les musulmans à faire le djihad dans son sentier. Et il a récompensé, Allah il dit, il récompense le djihad par des grandes récompenses immenses dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hein, que les actions que quelqu'un fait pendant les 10 jours du mois de Dhul-Hijjah, c'est meilleur que le djihad dans le sentier d'Allah. Alors, les sahabas ont posé la question, est-ce que c'est meilleur que qu'est-ce qu'on fait pendant de faire le djihad? Il a dit oui. Il a dit non, excepté celui qui part au djihad et qui part avec ses biens et qui revient sans rien, ni sa vie, ni ses biens. C'est-à-dire qu'il meurt, martyr dans le sentier d'Allah. C'est lui le seul qui est meilleur que celui qui fait les bonnes œuvres pendant le mois de Dhul-Hijjah. Donc c'est pour montrer à quel point il y a de grands mérites et de grandes récompenses dans le fait de faire des bonnes œuvres pendant les 10 jours de Dhul-Hijjah. Parmi les choses qui sont bien à faire pendant les 10 jours de Dhul-Hijjah, vous savez qu'il y a le jour de Arafah qui est un des meilleurs jours et ça c'est le pilier dans le Hajj. Donc ce jour-là, celui qui le jeûne, Allah va lui pardonner l'année précédente et l'année passée. Hein? L'année passée et l'année à venir pour ses péchés. Et les ulama ils disent que ça c'est en particulier pour les péchés que quelqu'un fait qui sont des petits péchés. Parce que les grands péchés, pour que ça soit pardonné ou effacé, il faut une repentance sincère. Si tu ne t'es pas repenti sincèrement, le fait de faire ce jeûne-là ne va pas effacer ces grands péchés-là, seulement les petits. Et également, il y a le sacrifice hein, du mouton, qui est l'exemple que nous a laissé Ibrahim, alayhi salam, quand Allah lui a ordonné de sacrifier son fils. Et lui, il s'est apprêté à le faire avec sincérité pour obéir à Allah. Parce que son amour pour Allah était plus grand que son amour pour son propre enfant. Et lorsque Allah a vu en lui la sincérité, il lui a échangé le sacrifice par un mouton. Et nous, par rappel, pour le rappel, pour se rappeler de ça, on fait le sacrifice du mouton chaque année. Et pour celui qui a l'intention de faire le sacrifice, eh bien, il doit s'abstenir de se couper les ongles, de raser les poils. Et la barbe, ça, on ne doit jamais la raser, ça c'est haram. Raser la barbe, ce n'est pas permis en islam. Il y en a qui le font, mais ce n'est pas correct. Il faut laisser pousser la barbe, ça, il faut honorer notre barbe. Le prophète, alayhi salam, il a dit, « U'fu al-liha wa qassu al-shawarib. » Donc, couper la moustache court, pour pas que ça dépasse les lèvres, et laissez votre barbe pousser. Et tous les prophètes, ils avaient la barbe. Et nous, les musulmans, on est ordonnés d'imiter, de ressembler aux prophètes. Donc, il y a un honneur dans le fait de laisser pousser notre barbe, pour ressembler à nos prophètes, et pour avoir réuni cette apparence de musulman qui est pieux et qui cherche la piété. Bien entendu, ça ne veut pas dire que tu as une barbe que tu es nécessairement pieux automatiquement. Mais on espère que, Inch'Allah, en ressemblant au prophète, eh bien, ça nous incite à essayer de développer le comportement des prophètes qui vient avec. Mais l'habit, comme on dit, ne fait pas le moine. Sauf que l'habit fait aussi le moine. L'habit fait le moine, mais l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit fait le moine aussi. Dans le sens que si quelqu'un est habillé en policier, tu ne vas pas dire qu'il est un moine. Il faut que tu portes l'habit qui va avec qu'est-ce que tu es, pour être réellement ce que tu es. Donc toi, tu es un musulman, tu dois t'habiller comme un musulman, comme on l'a expliqué la semaine passée. En la kulliha, les frères, faites des efforts pendant ces 10 jours. Le mois de Dhul-Hijjah, elle va rentrer dans les jours qui suivent. Profitez de ces 10 jours-là. Et que Allah Azzawajal vous bénisse et vous augmente en bien. Et bénisse vos familles et vos biens et vos argents et vous encourage dans le bien. Et vous rapproche de son paradis et vous éloigne de son enfer. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم